Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée, pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût, dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation Atemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un chef d'orchestre ou d'un orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation Atemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Diffusion le 5 octobre et rediffusion le 19 octobre. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site Fréquence 7 en lecture directe ou téléchargez. Pour ce premier opus de la deuxième saison d'Oscillation, j'ai demandé à Philippe de nous parler de la classification des œuvres, ces codes étranges qui accompagnent les intitulés des symphonies, opéras, concertos, requiem et compagnie, et qui changent selon les compositeurs. Et puis j'ai choisi de partager avec vous les dernières sonates pour piano de Ludwig van Beethoven, opus 109 et 111. Et pour approfondir nos connaissances, j'ai aussi demandé à Philippe de nous tracer un parcours de l'écriture musicale. L'écriture de ce que nous entendons, finalement.
Alors, sur la classification des œuvres, en fait, il y a souvent des petites choses qui s'invitent, comme ça, quand on va lire la pochette du disque, ou quand on va sur un programme de concert, ou sur un site internet, on voit opus. Alors, opus, ça veut dire quoi? C'est numéro. Donc, opus 2, bon, c'est l'œuvre numéro 2 de Monsieur Beethoven. C'est l'œuvre numéro 3, opus 3 de Monsieur Brahms. Okay. Sauf que c'est pas le compositeur qui donne le numéro d'opus, c'est souvent l'éditeur. Donc, l'éditeur, des fois, il en fait qu'à sa tête. Par exemple, le deuxième concerto pour piano et orchestre de Beethoven, l'opus 19, a été composé avant le premier concerto pour piano et orchestre, opus 15, de Beethoven. Voilà. Il a été composé avant, sauf que l'éditeur l'a édité après. Donc, du coup, il y a une inversion. Il y a un opus 15 et un opus 19. Mais Beethoven n'a pas écrit dans cet ordre-là. Comme c'est rigolo aussi de voir que dans les symphonies de Schubert, il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Il n'y a pas de septième. Et on passe à la huitième directement. Parce qu'on l'a perdue. Mais au lieu de l'appeler gentiment la septième, non, on l'a appelé la huitième. Et du coup, voilà, c'est une boulette d'éditeur et après, on récupère pas le truc. Alors, ça, c'est les opus et les éditeurs. Il y a aussi des titres. Hein. Les éditeurs aiment bien donner des titres. C'est pas le cas des compositeurs. Hein. La sonate au clair de lune, c'est l'éditeur. C'est pas Beethoven du tout qui a jamais pensé à appeler sa sonate clair de lune ou je sais pas quoi. C'était une sonate pour piano et ça lui allait bien comme ça. L'inachevé, c'est pas Schubert non plus. Hein. C'est pas Schubert non plus. Donc voilà, il y a des titres comme ça qui se baladent. Et puis si c'est pas opus, des fois on a des petites choses comme par exemple KV pour Mozart. Alors ça veut dire Köchel, Verzeichnis. Verzeichnis, c'est la classification. La classification selon Monsieur Köchel. Donc Monsieur Köchel a pris le catalogue des œuvres de Mozart et a dit « Ah bah alors ça, c'est son œuvre numéro 37, donc ce sera le KV Köchel Verzeichnis, le Köchel 37, ça c'est le Köchel 551, etc. etc. » Ça c'est la classification des œuvres de Mozart. Si c'est Haydn, c'est Hoboken. Donc c'est HBK. Donc c'est HBK 105. Donc c'est la classification des œuvres de Monsieur Hoboken. Et si c'est Bach, on a souvent BWV. C'est Bach Werke Verzeichnis, c'est-à-dire la classification des œuvres de Bach. Donc ça nous donne effectivement une indication. Alors c'est un peu collectif. C'est un peu collectif parce que les œuvres de Bach n'ont pas toutes été éditées de son vivant. Elles ont été éditées au fil du temps et jusqu'au 19e siècle parce que Mendelssohn fait rejouer des œuvres de Bach quand il arrive à Leipzig. Et là on se dit, mais c'est quand même un grand bonhomme ça. Donc il faut en faire quelque chose, il faut vraiment tout éditer. Donc ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure et un petit peu en pagaille. Et les œuvres de Bach ont plutôt été éditées par genre, on édite les cantates, on édite les concertos, etc., que sur une trame chronologique.
D'accord, donc le répertoire il est fait soit chronologique, soit par genre, en fonction des musiciens, en fonction des éditeurs,
oui,
en fonction de...
Oui, par exemple, les concertos brandebourgeois de Bach, donc ça c'est une œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach, c'est plutôt le début de sa carrière. C'est quand il est à Anhalt-Köthen, donc on est aux alentours de 1720 quelque chose, je crois, et pour autant, ça arrive à la toute fin de son catalogue. Ça arrive à la toute fin de son catalogue. Donc c'est comme les trois suites d'orchestre, c'est pareil, les quatre suites d'orchestre, pardon, ça arrive à la toute fin de son catalogue, c'est des BWV 1066, 7, 8, 9, ça arrive à la toute fin de son catalogue. Et c'est des œuvres pourtant qui ont été composées plus tôt dans les années 1720.
Les derniers concertos pour piano de Ludwig van Beethoven ont été composés entre 1820 et 1822. Après cela... Il composera, en gros, la 9e symphonie. Beethoven est alors complètement sourd. Juste pour vous souvenir, il est né en 1770 et mort en 1827. Nous allons écouter l'avant-dernier, puis le dernier concerto pour piano dans l'interprétation de Paul Badurascoda sur pianoforte. Le pianoforte est l'ancêtre du piano que nous connaissons et il est contemporain de Beethoven. Son son est moins enrobé que les pianos actuels, il est plus percussif, ce qui, à mon sens, convient tout à fait à ces sonates-là. Parfois, j'ai un doute. Est-ce que les premières interprétations des œuvres qui nous ont fait vibrer, trembler ou sauter de joie, danser, rire ou pleurer, ne s'impriment-elles pas dans notre mémoire, notre corps, pour estomper l'appréciation d'autres interprétations ? Je ne suis pas spécialiste, seulement passionnée, et il me semble que c'est mon cas. Alors, mon tout à fait de l'adéquation du piano forte sous les mains de Badurascoda à ses dernières sonates est probablement relativisable par les musicologues. Néanmoins, oulala. Dans ces concertos, j'ai été embarquée par la vibration, l'oscillation de bourdon qui semble les parcourir, comme un bruissement de l'air dans les feuilles. Et enchanté, exalté par les cascades rythmiques qui, comme des déflagrations de joie, secouent mes tripes, autant que le jazz auquel elles ressemblent. Et vous ? L'opus 109 est en mi majeur.
Thank you.
pour nous remettre de nos émotions et avant d'autres, Philippe.
Alors l'histoire, enfin du moins un parcours de l'écriture musicale.
Voilà. Comment... Pourquoi on écrit la musique? Pourquoi il y a un moment où on a besoin d'écrire la musique? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors déjà, je pense que si on écrit, c'est pour transmettre. C'est pas pour soi. C'est pour que d'autres puissent s'en emparer.
Partager peut-être
aussi. Ben oui, bien sûr, bien sûr. La musique, elle a très longtemps, et encore aujourd'hui, hein, Dieu merci, il y a quand même des endroits où c'est quand même de la tradition orale. C'est fondamental. C'est-à-dire que la musique, c'est ce qui s'entend, c'est pas ce qui se lit. Donc, transmettre oralement, c'est important. La danse, etc., des chants profanes. Et à partir surtout du Moyen-Âge, il y a quand même la musique dite religieuse qui devient très, très prégnante, puisqu'on a déjà des traces dans le haut Moyen-Âge de textes sur des antiennes, c'est-à-dire des chants grégoriens. Donc la musique grégorienne, c'est pas de la musique polyphonique, c'est-à-dire c'est pas de la musique à plusieurs voix, c'est de la musique monodique, à une voix. Mais par contre, ces antiennes, elles étaient appelées à être reproduites telles quelles, quand on prend l'antienne de tel verset, ou de tel hymne, ou de telle partie de la messe. Voilà, donc d'une célébration à l'autre, on va dire, il faut qu'on puisse les retrouver. Donc on va les écrire. Alors c'est pas tout de suite des notes. Il y a ce qu'on appelle des neumes. Donc il y a un système d'écriture déjà. Mais alors ça veut dire pour des gens initiés. Donc déjà des gens qui savent lire. Et après, non seulement ils savent lire, mais ils savent comprendre cette notation-là. Donc c'est pas évident. Il faut aussi se rappeler que pendant très 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 longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de chanter à l'église. Donc c'est pour des hommes initiés qui savent lire et qui sont capables de se repérer sur un système de notation assez hermétique hein, quand même. Et puis après, bon, musique profane, musique religieuse vont pouvoir bénéficier, on va dire, des mêmes artistes, des mêmes compositeurs. Mais lesquels compositeurs, on est à la Renaissance, vont quand même s'inspirer aussi de la musique populaire. Alors par exemple, il y a l'école franco-flamande, là on est à la fin du XVIe siècle, c'est les compositeurs formés dans les Flandres. Alors les Flandres à l'époque c'est immense, hein. C'est les Pays-Bas, c'est le Grand-Duché de Bourgogne, etc. C'est des provinces très riches. Alors comme ces provinces sont très riches, on aime bien s'entourer de tout ce qui est très beau, y compris la musique. Donc on veut bien payer beaucoup de compositeurs. Alors c'est des Gilles Binchois, c'est des compositeurs, des Roland de la Susse, des gens comme ça. Mais par contre, ces gens-là, on leur dit, mais il vous manque un petit quelque chose. Il vous manque quand même cette notion un peu plus solaire, un peu plus ensoleillée, un peu plus populaire que vous pourrez avoir dans les cours italiennes. Donc ils vont faire le voyage en Italie. Alors Roland de la Susse devient Orlando di Lasso. Ben voilà. Et ils sont beaucoup comme ça, hein, à montrer, à témoigner qu'ils ont fait le voyage d'Italie en italianisant le nom. Mais par contre, là, ils vont faire effectivement l'apprentissage d'une double culture, une culture à la fois pour la musique religieuse et une culture avec une musique plus populaire. Mais comment on le fait savoir aux autres? Eh bien, c'est là qu'on va voir apparaître deux centres d'édition d'imprimerie musicale. Un à Lyon et un à Venise. C'est les premiers centres d'imprimerie musicale. C'est à peine 20-30 ans après Gutenberg et la première édition de la Bible en allemand. C'est vraiment très très peu de temps après. Mais il faut faire savoir. Donc il faut inciter les gens à savoir lire la musique. Et ces premières partitions éditées, c'est de la musique profane. Pas de la musique religieuse, et c'est de la musique qui s'inspire de ce qui se passe, surtout en Italie, dans des formes comme la barzelletta, c'est-à-dire des formes légères de chants qu'on peut trouver dans la rue, à carnaval, lors des foires, etc. Et c'est pour que les amateurs refassent cette musique-là chez eux. Donc, on l'écrit, on l'imprime, et on la diffuse.
Et c'était déjà écrit à ce moment-là, avec les cinq lignes, les clés de sol, clés de fa.
Alors non, parce qu'à l'époque... Alors eux vont avoir une vision polyphonique, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'une ligne populaire, d'un chant populaire, ils vont l'harmoniser. C'est-à-dire qu'ils vont créer trois, quatre lignes en dessous pour que ces lignes puissent interagir les unes avec les autres.
Donc il y a les mots.
Il y a les mots,
Et des lignes en dessous.
Absolument.
Avec des dessins. Ou avec...
Oui, c'est... alors c'est déjà des notes.
C'est des notes.
C'est déjà des notes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ça, il y a quelque chose qui, au tout début, n'existe pas.
Rythme.
Non, c'est la barre de mesure. La barre de mesure n'existe pas. C'est-à-dire que l'œil de celui qui va chanter ou jouer est censé aller de gauche à droite en suivant sa propre ligne, c'est-à-dire son propre récit, mais aussi capable d'aller voir au-dessus, en dessous, ce que font les autres et de se repérer. Ce qui est une gymnastique, aujourd'hui ça nous paraît de la science-fiction, hein, mais à l'époque il n'y a pas la barre de mesure. Et la barre de mesure, ça va être une invention des éditeurs de musique pour simplifier la vie à tous ces pauvres amateurs qui n'y arrivent pas. Après, bah, c'est vrai que même encore aujourd'hui, on peut passer beaucoup de temps à dire à des jeunes musiciens, la phrase, c'est pas la mesure. La phrase, elle s'en fiche de la barre de mesure, il faut voir plus loin.
C'est ça.
Donc il ne faut jamais oublier que l'écriture musicale n'est qu'un support à une pensée et qu'il faut se bagarrer tout le temps pour libérer cette pensée. On ne peut pas, on n'est pas là pour restituer ce qui est écrit. On est là pour l'avoir assimilé, et si c'est assimilé, il y a quelque chose qui va apparaître. Mais le but n'est pas de restituer ce qui est écrit. C'est comme si on se contentait de lire un texte de théâtre sans expression, sans émotion, sans rien. On a compris tous les mots, mais il ne se passe rien. Donc ben non, il faut oublier ce support-là qu'est la partition.
Ok, donc l'écriture, elle est commencée par des mots avec des signes, ensuite des mots avec trois lignes en dessous et la phrase musicale en entier.
Ouais.
Et ensuite, pour les besoins de l'écriture et l'impression,
ouais,
il y a eu la barre de mesure et il y a eu...
Ben oui.
Et les clés.
Alors oui, les clés. Alors les clés, aujourd'hui, on a certaines clés, ça a quand même évolué aussi. Par exemple, aujourd'hui, si on prend une partition pour une chorale, on va avoir de bas en haut des basses qui vont chanter en clé de fa, puis des ténors en clé de sol, avec un petit 8 accroché à la clé de sol. C'est juste pour dire que ce n'est pas la même hauteur que les voix de femmes également en clé de sol. On aura les altos, écrits en clé de sol, et les sopranos, écrits en clé de sol. Bon. Le même chœur à la Renaissance, de bas en haut, on aura toujours nos basses en clé de fa, on aura nos ténors en clé d'ut 4, on aura nos altos en clé d'ut 3, et on aura nos sopranes en clé d'ut 1. Donc ça veut dire qu'il faut toutes les clés pour ouvrir toutes les portes, parce que sinon on n'a pas tous les codes. Voilà.
C'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok. Et ben voilà pour l'écriture.
Oui. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que plus on a exploré les ressources de l'écriture musicale, plus on essaye de trouver d'autres systèmes d'écriture. Des fois, c'est plus ou moins heureux, c'est un peu expérimental aussi. Hein. Mais on peut se passer de la barre de mesure, on peut se passer de la portée. Des fois, on a juste des rapports de sonorité. Par exemple, un instrument avant, comme la flûte traversière, le compositeur va demander de souffler dedans avec des bruits liés aux clés, etc., pour trouver, trouver différentes sources d'expression. Et on pousse le bouchon jusqu'à John Cage, qui dans les années, je crois que c'était 60, il a fait ça, 4 minutes 33. Ah, 4 minutes 33, alors ça, c'est génial. Il y a même la partition de 4 minutes 33, ça existe. Hein. C'est en trois mouvements. Et il est demandé au chef d'orchestre, parce que c'est avec orchestre, d'avoir un métronome, pas un métronome, un timer, une petite horloge devant lui, parce que durant les 4 minutes 33, on ne doit rien faire.
Silence.
Oui, mais le silence, ça n'existe pas.
Ouais.
Donc, voilà. Mais le plus beau, c'est que la partition peut l'acheter.
Et nous écoutons maintenant le concerto pour piano opus 111 en do mineur de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Oscillation atemporelle est terminée. Rendez-vous en novembre pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.